On y va ?
Oui.
Silence.
Nous sommes sur le plateau du Théâtre de l'Odéon, aux Ateliers Berthier. Stéphane Braunschweig met en scène « Jour de joie » d'Arne Ligre. La première scène s'ouvre sur le plateau couvert de feuilles mortes aux couleurs de l'automne, avec au centre un banc, une mère et sa fille.
Une mère dit « C'est bien ici, en bas, au bord de la rivière. » Une mère dit « Je trouve que c'est merveilleux ici. » Une mère dit « Il y a une sorte de calme très particulier. » Une mère dit « Je suis heureuse d'avoir trouvé cet endroit. » Une mère dit « Ça me rend heureuse de venir ici. »
Une sœur pense...
Ok, Virginie, déjà, le premier « une mère dit », il faut vraiment que tu l'adresses à Cécile pour qu'on ait l'impression qu'ensuite tout l'ensemble, même si tu ne regardes pas Cécile, est plus adressé à Cécile. Ça ne se partage pas assez, là.
Oui.
D'accord ?
Oui.
On reprend avec la musique.
Une mère dit « C'est bien ici, en bas, au bord de la rivière. »
Et là, tu ouvres. Et
une
là,
mère...
C'est juste que la première réplique soit un peu plus... La première phrase un peu plus adressée. Et comme ça, après, tu ouvres sur l'espace. Un peu plus vif. D'accord.
Oui.
Encore une fois, au début ?
Oui.
Alors, tu nous regardes. Hop.
Sur France Culture, et c'est un jour de joie. Dans la pièce de l'auteur norvégien Arne Ligre, ça sonne presque comme une décision ou une injonction. D'ailleurs, le titre est « Jour de joie » au pluriel, dans la traduction du metteur en scène Stéphane Braunschweig. Le spectacle a été créé en septembre 2022, il y a un an et demi, il reprend ces jours-ci. Ça fait longtemps que l'écriture d'Arne Ligre accompagne Stéphane Braunschweig. Depuis 2011, c'est la cinquième de ses pièces qu'il met en scène. On pense au Norvégien Jon Foss, à sa musicalité, au silence. Ici aussi, la langue est à la fois simple et poétique. Dans Jour de joie, une mère attend ses deux enfants sur un banc, près d'une rivière et d'un cimetière. L'identité de chaque personnage se décline en fonction des autres. Une mère, une sœur, une veuve, un voisin, une ex-femme. Il y aura 16 personnages. Et puis il y aura moi. Il n'est pas un frère, mais moi. Et il annonce « Je vais disparaître, il faut que je sois moi ». Il annonce même qu'il renoncera à son prénom, qu'il cherche un moi neuf. Cette disparition bousculera chacun. On entendra « C'est si fragile la vie que ça peut se défaire à tout moment ». Et en même temps, il y aura une foi, un désir de joie. Des mots répétés plusieurs fois comme « Nous sommes heureux ». Pour se mettre à y croire pour de bon. Et une joie de la rencontre. Stéphane Braunschweig dirige l'Odéon Théâtre de l'Europe depuis 2016. Il a été depuis 1993 à la tête d'institutions, le CDN d'Orléans, le TNS à Strasbourg, la Colline à Paris, avant l'Odéon, qu'il quittera avant l'été. Et il signe là une pièce qui parle autant de l'incertitude et de l'inquiétude vertigineuse du monde que de la persistance de la joie et de la puissance des mots qui font advenir des jours meilleurs.
Encore une fois, la même chose.
Oui, oui.
Tu peux refaire ta dernière, Cécile, si tu veux.
Mais pas aujourd'hui. C'est si fragile, la vie, on va faire. C'est si fragile, la vie.
C'est si fragile, la vie. Ça peut se défaire à tout moment.
Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Et nous allons être heureux.
Je suis heureuse.
Nous sommes donc aux Ateliers Berthier, au Théâtre de l'Odéon à Paris, pour la reprise de « Jour de joie » de l'auteur Arne Ligre, qui se joue du 20 avril au 5 mai.
Allez, encore une fois du début, ça me...
C'était mieux.
Ouais. Laisse pas tomber les fins de phrase.
Oui.
Je suis Cécile Coustillac, et je suis comédienne, et je joue une sœur et une autre sœur dans « Jour de joie ». ».
Virginie Colmain et je joue le rôle d'une mère et le rôle d'une autre mère.
Et Stéphane Braunschweig, donc le metteur en scène de Jour de joie de Arne Ligre.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture, nous nous sommes glissés en répétition.
Quand vous vous asseyez et que vous commencez à parler sans les micros,
oui.
Attention à ne pas trop descendre. Il ne faut pas qu'on ait la sensation d'une chute d'intensité. Donc en fait, il faut soutenir un petit peu plus à l'inverse.
Oui, oui.
Et attention à ne pas trop intimiser.
C'est le premier jour de répétition, de reprise de Jour de joie. On est là sur le plateau des Ateliers Berthier. Quand vous l'avez joué en septembre 2022 à l'Odéon, mais dans le 6e arrondissement, donc sur un autre plateau, évidemment l'espace était différent. Qu'est-ce que ça modifie d'être dans un nouvel espace, dans les relations entre vous, là d'emblée, quand vous êtes arrivé sur le plateau ce matin, Virginie Colmain?
Déjà d'emblée, j'ai pensé à la précédente pièce que Stéphane Braunschweig avait montée ici, à Berthier, Nous pour un moment. Donc, on marchait dans l'eau.
En 2019, qui était aussi une pièce de Arne Ligre.
C'est ça, exactement. Donc j'ai immédiatement plutôt pensé à ça, c'est-à-dire émotionnellement. C'était cet espace-là, avec cette pièce-là. Et la grande différence ici, c'est que c'est un plein pied. Donc, avec ce gradin, il y a une proximité qui a moins... Enfin, je trouve, à l'Odéon, on est surélevé. Là, c'est vaste, tout à coup, l'espace... Il me semble comme ça, là, je veux dire, j'ai une préférence pour cette pièce ici, dans cet espace.
Cécile Coustillac, je crois que quand vous êtes arrivée ce matin, vous avez dit « Ah, c'est comme si on était d'égal à égal
oui.
avec le public ».
Oui, c'est vrai, c'est la chose qui m'a frappée le plus, c'est que le premier rang, il n'est pas en dessous. Il est au même niveau. Donc forcément, ça change des choses dans le rapport au public, oui. Ouais. Et moi, les deux espaces me plaisent, entre Odéon 6e et ici. Ce qui est marrant dans le 6e, c'est qu'il y a des dorures partout, alors ça fait un écart. Et bon, forcément, ça raconte des choses. Mais ici, c'est un théâtre plus... Enfin, ça va mieux, je trouve, avec peut-être l'univers de Ligre.
Et est-ce que ça va modifier des choses dans le spectacle, Stéphane Braunschweig, de changer d'espace ou... Pas tant que ça.
Non, je pense pas que ça va changer, mais c'est vrai que le rapport au public est un petit peu différent. Le fait d'être de plein pied, comme disait Cécile, un peu d'égal à égal, dans la mesure où, en fait, ce que propose Arne Ligre, c'est toujours de faire une expérience. Ce sont des expériences qu'il propose aux acteurs. Et des expériences qu'il propose à travers les acteurs au public. Donc peut-être on va avoir encore plus ici cette impression de partager ces questions existentielles, ces moments de vie qu'il propose.
Et vous parliez de Nous pour un moment. Depuis Je disparais en 2011 au Théâtre de la Colline, Stéphane Braunschweig, vous avez monté 5 pièces de Arne Ligre. Là, vous avez fait la traduction de Jour de joie. C'est quoi la spécificité de la langue dans cette pièce-là?
Alors, Jour de joie, c'est une pièce un peu différente des autres. Déjà parce que c'est une pièce où il y a beaucoup d'acteurs. Il y a 8 acteurs. En général, on est plutôt sur des distributions à 3, 4, 5 acteurs. Même Nous pour un moment, la pièce qu'on avait faite avant, donc ici à Berthier, on était 7 acteurs, mais normalement c'était écrit pour 5. Donc c'est des pièces qu'on...
8 acteurs pour 16 personnages.
Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est une pièce que Arne a écrite pour un grand plateau. Il l'a écrite pour le Norske Theater à Oslo, et c'est la première fois qu'il écrivait en se disant j'écris pour un grand plateau, un grand public. Donc c'est déjà quelque chose de différent par rapport aux autres pièces qui avaient un côté un peu plus théâtre de chambre, un peu plus intimiste, même si moi, en les montant en France, souvent je les ai montés sur des grands plateaux parce que je trouve que c'est un théâtre qui se contemporain, mais qui se prête bien en fait à un partage avec un public plus large. La deuxième chose, c'est que alors c'est une pièce qu'il a écrite. Alors, en Norvège, il y a deux langues en fait, bon, qui sont proches, mais il y a donc la langue commune que tout le monde parle, qui est la langue le norvégien, ce qu'on appelle le bokmål, et puis il y a le nynorsk, qui est une langue un peu plus artificielle dans le sens où elle a été fabriquée au 19e siècle à partir de différents dialectes norvégiens et qui est une langue un peu plus poétique, plus imagée, qui est une langue qui est utilisée notamment un peu plus dans la littérature par les poètes et donc c'est la première fois que Arne écrit une pièce en nynorsk. Ça change un petit peu son écriture. C'est peut-être pour cette raison un petit peu moins aride, un peu moins sec, un peu plus imagé. Je crois que ça lui a donné une liberté, un sentiment de liberté qu'on a dans cette écriture. Après, nous en français, on peut pas vraiment faire la différence quand on traduit. On traduit en français, donc il n'y a pas deux langues. On cherche à suivre cette écriture. Il y a toujours la sensation d'une écriture qui est assez simple, en tout cas un vocabulaire plutôt réduit, des phrases souvent courtes, cette sensation que la parole s'invente vraiment au fur et à mesure, qu'on sait jamais très bien où on va avec l'igre. C'est un des plaisirs, c'est-à-dire que on rentre dans une scène et puis on sait pas où elle va. C'est pas du suspense, mais il y a une sorte de découverte petit à petit, comme si les acteurs improvisaient. Et donc, ce sentiment de pas savoir où on va, c'est très spécifique, je pense, de l'écriture de l'igre. Et voilà, on s'abandonne à suivre la pièce comme elle s'invente. On a toujours l'impression que ça s'invente devant nos yeux.
C'est bon de t'avoir à la maison.
Un peu plus simple.
C'est là.
C'est bon de t'avoir à la maison. Un peu plus simple. Là, on doit sentir que derrière son côté très joyeux, il y a quand même une angoisse profonde. Et c'est juste un tout petit peu dans ça apaise qu'on le sent. Hein. Et ça vient aussi d'elle qui avant a dit « Mon frère me manque ». Donc le manque, il est partagé. Parce qu'en fait, tu le vois pas si souvent non plus, le fils. Hein. On peut reprendre. Il va venir aussi.
Il va venir aussi?
Oui. Il devrait être là maintenant.
Super. Il me manque. Mon frère me manque.
C'est bien ici. J'aime bien m'asseoir ici et regarder l'eau de la rivière, le courant silencieux. Ça apaise.
Et en parlant de langue et de traduction, le titre « Jour de joie », il était évident à trouver.
Alors la réalité, c'est que le titre norvégien, c'est « Tid for glede », ça veut dire plutôt un temps pour la joie, où c'est le temps de la joie. C'est difficile à traduire en français. On n'a pas tout à fait l'équivalent. Ça serait en anglais time for joy, avec ce que ça porte comme une injonction. Hein. Maintenant il faut être joyeux. Alors je pouvais difficilement traduire comme ça, donc on a cherché un titre proche et qui reprend aussi un mot qui revient plusieurs fois dans la pièce, qui est cette idée qu'il y a des jours de joie, qu'aujourd'hui c'est un jour de joie. Voilà.
Virginie Colemain et Cécile Costiac, comment vous décririez-vous la musicalité de cette langue d'Arne Ligre dans cette pièce-là?
C'est une langue qui a vraiment un rythme. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à traverser, avec, comme disait Stéphane, des mots assez simples, des mots qui reviennent. Alors, moi, ce que j'adore, c'est ces mots qui reviennent dans d'autres scènes, mais avec un, qu'on peut regarder sous un jour nouveau, puisque c'est pas les mêmes personnages qui disent ces mots, et c'est pas dans le même contexte. Donc, comme ça, ça fait, il y a une espèce de réflexion autour des mots, tout au long de la pièce. Un peu comme quand on, avec différents points de vue, quoi. Un peu comme par rapport aux personnages, c'est-à-dire selon comment ils sont agencés, et ben tout d'un coup, il y a une nouvelle lumière sur ce mot ou sur ce personnage.
Virginie Colemain.
On ne peut pas oublier que c'est une traduction. Néanmoins, je trouve que comme le disent Stéphane et Cécile, c'est une écriture très simple, avec un certain nombre de mots, et que les acteurs et les personnages se partagent. Donc en ça, c'est ludique. En effet, ça crée, les mots n'ont pas les mêmes valeurs selon les situations dans lesquelles ils sont plongés. Mais c'est vrai que il y a aussi les moments où nous-mêmes, nous sommes des narrateurs dans la manière dont on commence les scènes. Alors peut-être qu'on va en parler. C'est-à-dire que les protagonistes, les figures, disent ou pensent. Donc ça crée une petite première forme comme ça de temporisation jusqu'à ce qu'on entre dans les scènes.
Et c'est vrai que dans Jour de joie, les personnages sont d'abord décrits selon leurs relations les uns aux autres, selon leurs liens, puisque c'est une mère, une sœur, un voisin, une ex-femme, une veuve. À part un dont on parlera, qui est moi, et puis il y a un autre moi, mais à part celui-là qui va bousculer un peu l'ordre des choses, Stéphane Braunschweig, les personnages sont d'abord des liens les uns aux autres.
Oui, je crois que Ligre, c'est quelqu'un qui vraiment explore les relations familiales, amicales, ou les relations avec des inconnus. Les personnages existent effectivement les uns en fonction des autres, avec leur degré de proximité. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de pièce en pièce. On a l'impression que la pièce s'invente toujours devant nous, mais les personnages aussi s'inventent. C'est-à-dire que c'est en parlant que les personnages se mettent à exister, à se construire, à se composer. Il suffit de dire je suis une mère et voilà, et nous avons une mère. Donc c'est en nommant les choses que les personnages se dessinent petit à petit devant nous et dans ces relations. Donc il y a cette mère et cette fille. En fait, on va avoir trois groupes de personnages dans la première partie de la pièce. Une mère et sa fille qui se revoient après ne pas s'être vue pendant un certain temps, puisque la fille est partie habiter à l'étranger. La fille a un frère jumeau qui dans la pièce s'appelle moi. Donc c'est comme si c'était autour de lui que tout tourne, mais en fait c'est le personnage qu'on voit le moins, puisqu'en fait on l'attend, pendant pratiquement toute la première partie, puis quand il arrive, ce personnage va annoncer qu'il repart, c'est-à-dire qu'il va disparaître. Donc il est venu pour dire qu'il ne reste pas, et il est venu pour dire que lui il ne va pas jouer cette pièce avec nous. Et puis il y a deux autres groupes de personnages qui vont arriver, un voisin. On est dans un espace qui est un peu à l'écart de la ville, un endroit au bord d'une rivière. Il y a un banc, un cimetière. C'est un endroit un peu bizarre, à part. Et on ne sait pas très bien pourquoi, tout d'un coup, tous ces groupes de gens vont se retrouver là. Et donc ce voisin, c'est un voisin du coin, qui lui a donné rendez-vous avec son... Enfin, qui a un rendez-vous avec son ex-femme. Donc eux, ils se sont séparés et elle vient lui annoncer qu'en fait elle est enceinte. Et puis il y a un troisième groupe de personnages qui c'est une veuve qui arrive avec les deux enfants, les deux fils adultes hein, de son mari. Et tous ces sept personnages, puis huit quand moi va arriver, se retrouvent dans cet espace, sur ce banc et ces gens qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir entre eux, enfin, ils n'ont pas d'histoire entre eux, à part le fait de se retrouver ici, vont se mettre à parler ensemble de manière parfois un peu surréaliste. Ils vont parler de ce qui les concerne, quoi, la vie, la mort, le couple, la maternité, la paternité. Et donc, c'est une rencontre... que je trouve assez surréaliste en fait entre tous ces personnages qui se parlent, enfin c'est d'ailleurs
ils deviennent témoins les uns des autres de leurs histoires.
Non seulement ils sont témoins, mais ils vont croiser en fait leurs histoires, c'est-à-dire que parce que la fille elle peut pas avoir d'enfant, elle se retrouve face à cette femme qui est enceinte mais avec un mari qui n'en veut pas, et en fait toutes les histoires vont se croiser, ça s'entremêler. C'est assez beau parce que ce théâtre, enfin très souvent. Pendant très longtemps, le théâtre contemporain, c'était un théâtre sur l'incommunicabilité, sur la difficulté à communiquer. Mais finalement, ici, ces personnages communiquent. Donc, ça a quelque chose d'assez, d'assez joyeux, en fait, de voir des gens qui se connaissent pas vraiment communiquer et presque communiquer plus facilement parce qu'ils ne se connaissent pas que parce qu'ils se connaissent. Ça, c'est la première partie. Puis après, il y a une deuxième partie. On a bien dans la première partie 8 personnages et dans la deuxième 8 autres personnages avec seulement le rôle de la mère qui fait le lien entre les deux parties.
J'habite tout près. J'ai quasiment la même vue depuis mon jardin, mais je me retrouve souvent à faire un petit tour par ici. Il y a un tel silence ici.
Quand vous n'êtes pas là.
J'aime bien rester assise là sur ce banc.
Il y a un oui, hein, pardon.
Oui, oui.
Oui.
Oui, j'aime bien rester assise là, sur ce banc, seule.
Alors là, le seul, par contre,
seule.
Voilà.
Et aujourd'hui, j'ai mes deux enfants avec moi, ou plutôt ma fille, pour l'instant. Mon fils va arriver, lui aussi.
Salut.
Salut.
Oui, alors là, en fait, tu dois comprendre qu'elle a rendez-vous avec son fils, donc oui. Elle n'est pas prête de partir, hein. Donc, à partir de salut, ça devient un peu moins aimable, en fait. Donc, j'aime bien rester assise seule. Et en plus, aujourd'hui, j'ai ma fille, mon fils, et donc, je suis pas prête de partir.
Alors, voilà.
Donc, si vous pouvez revenir dans une heure, ça sera mieux.
Demain. Oui, oui. J'aime bien rester assise là, sur ce banc, seule.
Il y a cette phrase au début de la pièce. C'est si fragile la vie, ça peut se défaire à tout moment. Et il y a cette question justement des liens qui se maintiennent ou pas, du pardon qui traverse la pièce aussi. Et puis il y a comme cette injonction à la joie, puisque ce mot, il revient souvent, la joie existe, je suis heureuse, nous sommes heureux, c'est un jour de joie. Et au centre, il y a ce moi qui lui arrive et dit « j'étais en chemin pour disparaître, je vais disparaître ». Pour me retrouver avec juste moi, sans tout ce qui va avec, sans mon prénom. Donc ce qui fait la bascule, c'est justement se défaire de tous ces liens.
Je crois que chez Ligre, il y a à la fois le besoin de l'autre et la peur de l'autre. Il y a le besoin des relations et le fait que les relations sont aussi aliénantes et font peser un poids sur le sur l'existence. Et puis il y a les relations qu'on a avec sa famille. Qu'est-ce que c'est d'avoir une mère comme cette mère que joue Virginie, c'est un peu lourd aussi. Donc voilà, c'est un jeu entre être soi, ne plus être soi, se libérer de son identité, peut-être pour en trouver un autre, une autre. Ça fait vraiment. Et ce qu'on retrouve finalement dans cette structure où un moi devient un autre moi. Donc l'acteur se libère de son premier personnage pour devenir un autre. C'est aussi quelque chose qui a à voir avec le théâtre, en fait. Les acteurs, ils passent d'un rôle à l'autre, c'est-à-dire qu'ils... Et donc, avec une histoire, des relations, et puis ils vont s'en libérer pour passer à un autre. Donc, changer de vie, changer de rôle, ça a toujours un peu à voir avec le théâtre. Oui, voilà.
Et sur ce besoin de l'autre et peur de l'autre en même temps, je crois, Stéphane Brodjweig, que vous disiez pendant les répétitions de Jour de joie, pensez beaucoup à Tchekhov et à son écriture et au mélange de justement solitude et choralité.
Alors c'est vrai que c'est une pièce, c'est une pièce assez tchékovienne. On pouvait en parler aussi tout à l'heure quand on parlait de la langue et de la musicalité, parce que comme chez Tchekhov, il y a beaucoup de phrases qui reviennent, de phrases qui vont être dites par un personnage, puis reprises par un autre. Donc c'est comme des thèmes, hein, des thèmes musicaux qui traversent la pièce à travers voilà, les différents personnages. Et puis il y a ce côté comme dans les pièces de Tchekhov, où finalement on est juste là à parler parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il y a une forme de d'oisiveté. On est un peu suspendu dans le vide et on se parle et on se pose des questions existentielles. Donc c'est vrai qu'il y a une atmosphère assez tchékovienne dans cette pièce-là, en tout cas.
Et en la traversant, est-ce que vous avez cette même sensation, en la jouant, de naviguer entre justement cette solitude et cet ensemble et tous ces liens qui se créent entre les différents personnages, Cécile Coustillac?
La solitude, je dois dire que pas trop. Moi, j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est dû à mes personnages en particulier, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui se construit avec la parole de l'autre et la parole de mes personnages. C'est comme si on était tenu par ça. Je dois dire que j'ai peu de vision de mes personnages dans une solitude, quoi. C'est vrai que la sœur, elle, particulièrement elle veut que ça se passe bien. Donc vraiment, elle est tendue vers le fait que même quand il y a des tensions, ça ouvre pas sur des conflits. Alors c'est quelque chose de très ligrien, ça. Enfin, un peu, tous les personnages sont un peu traversés par ça, mais je trouve particulièrement mon personnage. Il y a vraiment des efforts et une croyance dans la parole, et en même temps, les mots, on peut aussi passer par-dessus s'ils sont pas justes. Enfin, il y a à la fois une grande croyance dans la parole et puis la sagesse de se dire, ben on peut aussi pardonner, quoi, et ne pas fixer dans sa tête des mots qui auraient été blessants. Voilà, moi je ressens plutôt vraiment cette toile tissée avec les autres. Quand je joue, j'ai vraiment cette impression très forte et c'est assez agréable à traverser.
Ça me rend heureuse. J'aime ça. Te voir heureuse. C'est un jour de joie aujourd'hui. C'est joliment dit. Un jour de joie.
Je suis heureuse.
Moi aussi. Je suis extrêmement heureuse. Je crois que j'ai envie de chanter un peu.
Ah oui, vas-y. J'aime t'entendre chanter.
Oh, 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 caught in a bad romance. Oh, 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 oh. bad romance. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Rama, 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 Gaga. Oh la la, want your bad romance. I want your ugly, I want your disease.
I want you everything as long as it's free.
I want your love, 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 love. I want your love. I want your drama, the touch of your hand.
I want your leather studded kiss in the scene.
I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, but you know that I need you. I want it bad, your bad romance.
I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. Whoa, whoa.
I want your love and I love your revenge. You and me could write a bad romance.
Vous écoutez Tous en scène sur France Culture. Nous sommes toujours au Théâtre de l'Odéon, aux Ateliers Berthier, en répétition avec Stéphane Braunschweig pour son spectacle « Jour de joie » de l'auteur Arne Ligre. C'est la cinquième pièce du Norvégien qu'il met en scène et il signe là la traduction de la pièce.
Moi, je voulais revenir sur cette phrase « C'est si fragile, la vie, ça peut se défaire à tout moment ». Parce que effectivement, cette pièce, Arnold a commencé à l'écrire avant avant le Covid, et il l'a écrite en grande partie pendant, et elle a été créée à la sortie de la crise sanitaire, de la pandémie. Et je crois que c'est pas du tout une pièce qui parle de la pandémie, on parle pas de ça, mais elle est assez marquée en fait par ça, c'est-à-dire l'idée que après la pandémie, après la solitude dans laquelle se sont retrouvés beaucoup de gens, du fait des confinements, du fait de ne plus pouvoir aller dans les bars, de ne plus pouvoir aller dans les théâtres, il y a un besoin dans cette pièce de retrouver une vie sociale et des relations, et je crois et de la joie, et je crois que cette pièce est vraiment assez marqué par la période qu'on a vécue à ce moment-là.
Et il y a cette phrase, parfois il faut aider les bonnes idées à s'imposer. Est-ce que dans la pièce, la joie, ça fait partie de ça? On a l'impression que peut-être le dire va faire advenir les choses et qu'en tout cas, ça peut être une décision à un moment donné.
Oui, en tout cas, il faut... c'est un combat. Il faut se battre parfois. Quand on voit la sinistrose ambiante dans laquelle on vit en ce moment, c'est sûr que
il faut arrêter les bonnes idées à s'imposer.
Ouais, et que de faire un spectacle comme ça, ça raconte quelque chose aussi. C'est pas la même chose que juste après le Covid. C'est pas la même chose que il y a un an et demi quand on a créé la pièce. Je pense qu'on est encore dans une autre période et que sans doute la pièce va résonner encore autrement et prendre encore un autre sens.
Je vous fais écouter la voix de Claude Régis qui parle de l'écriture de Arne Ligre. Et on est en 2007, pardon. Et à ce moment-là, il montait Homme sans but.
Quand j'ai lu celui-là, j'ai senti une attirance réelle. Parce que si j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'état d'incertitude », qui est d'ailleurs un terme employé à la physique quantique, mais là, c'est vraiment quelque chose qui ouvre, qui agrandit le champ du doute et de l'incertitude. Donc c'est sans doute ça qui m'a branché comme un aimant qui ramasse un clou, quoi.
Il me semble qu'il y a une grande proximité, ne serait-ce que parce que si vous avez, comme on l'a dit, évacué la théâtralité de votre théâtre, Ligre, lui, évacue la littérature de ses phrases.
Oui.
C'est un poète sans littérature.
Absolument. Ça, je crois que c'est dû au fait qu'il travaille sur le simulacre, et que personne n'est ce qu'il est, et qu'on ne sait pas qui est, on ne connaît pas le passé, on ne pourrait connaître qu'un faux passé de personnes qui sont engagées pour représenter des membres d'une famille qu'ils ne sont pas. Donc c'est être et ne pas être en même temps, ce qui est une grande obsession de ma vie, dans le travail en tout cas.
Stéphane Braunschweig, est-ce que ça, l'incertitude dont parle Claude Régis et être ou ne pas, et ne pas être, peut-être en même temps, vous semble parler de l'écriture d'Arnaud Ligre ?
Ah oui, oui, absolument. Claude Régis était un peu le premier, enfin, pas tout à fait le premier en France, mais enfin, un des premiers à faire découvrir l'écriture de Ligre avec cette très belle pièce qui s'appelle Homme sans but. Et c'est vrai que dans cette pièce, on ne sait jamais si les personnages de la famille du personnage principal, qui est un architecte, sont vraiment ou pas les membres de sa famille, ou s'ils jouent des rôles. C'est une pièce d'ailleurs qui est pas sans rapport avec le théâtre de Pirandello, qui est par ailleurs un auteur que je monte régulièrement. Et l'incertitude est le principe d'incertitude, finalement, qu'il y a dans le théâtre de Ligre est fondamental. Quand je disais, on sait jamais très bien où on va, ça peut aller vers une direction ou vers une autre. On sait pas si la disparition de moi, on doit la prendre de manière tragique, comme, je sais pas, un suicide, une disparition, ou la possibilité d'une renaissance. Voilà, c'est toutes ces ambiguïtés et ces incertitudes qui sont au cœur de son théâtre. Et quand on avait fait la pièce, nous, pour un moment, Virginie rappelait qu'on marchait dans l'eau. C'est-à-dire qu'on avait fait une scénographie où on était tout le temps à marcher dans l'eau. Quand on marche dans l'eau, on ne sait pas où on marche, en fait. On ne voit pas le sol. Et ça nous permettait, enfin, avec l'ensemble des acteurs, d'évoquer cette incertitude et d'apprendre aussi à vivre avec cette incertitude. Pour moi, c'est vraiment, de ce point de vue-là, un auteur qui est complètement en phase avec nous, avec notre époque, avec notre actualité, pas de manière directe. C'est pas quelqu'un qui va citer l'actualité, c'est pas quelqu'un qui va traiter l'actualité, c'est pas quelqu'un qui va nous mettre des sujets d'actualité sur le plateau, pas du tout. Mais il nous met en lien avec des affects et des sensations et des rapports au monde de notre époque. Et en ça, c'est vraiment un auteur hyper contemporain et hyper important.
Et vous parliez de l'espace de nous pour un moment. Vous dites souvent, Stéphane Braunschweig, que vous entrez dans un texte en rêvant l'espace. Là, pour Jour de joie, est-ce que l'espace était arrivé très vite? C'était évident?
Oui, assez, en fait. Donc la première partie, c'est juste un parterre de feuilles mortes.
Vous êtes assis à la lisière.
Voilà. Alors, c'est vrai que le spectacle, il a été pensé au départ pour l'Odéon, et que j'avais cette vision du sol de l'Odéon couvert de feuilles mortes, comme est à côté le jardin du Luxembourg en automne. Je m'étais dit, on va aller chercher des feuilles mortes dans le jardin du Luxembourg. Après, je me suis dit, bon, ça va faire quand même beaucoup de poussière, donc on a fait quand même on a créé des fausses feuilles mortes qui sont très belles. Donc c'était un peu une vision. Je voulais évidemment pas représenter la rivière. Il s'agit pas avec Ligre d'aller dans des scénographies trop réalistes. Mais la feuille morte, c'est à la fois très beau et avec aussi une mélancolie, parce que il n'y a pas de joie sans l'envers qui est la mélancolie. Cette image, qui est décrite par Ligre de ce banc au bord de la rivière, j'ai vu une mise en scène à Oslo où il n'y a pas de banc. On peut toujours ne pas mettre de banc. Mais en même temps, ce banc, c'est la scène. C'est-à-dire, c'est la scène où tout se passe. Donc oui, c'est venu assez simplement. Et puis, je voulais que dans la deuxième partie, on ait un changement assez net. Donc effectivement, dans la deuxième partie, on rentre dans un espace intérieur un petit peu plus réaliste, mais pas totalement, puisqu'en fait, on garde les feuilles mortes dans le sol de la maison. Donc ça l'est un petit peu moins. Mais j'aime bien l'idée que ces deux parties soient théâtralement assez différentes, en fait.
Parfois, j'espère que vous n'aurez pas d'enfants. Est-ce que j'arriverai à ne voir qu'elle et pas lui dans leurs enfants? Je me demande.
Oui, mais c'est pas une blague, hein.
Non, c'est pas une blague, mais c'est tellement énorme.
Ah, parfois, j'espère que vous n'aurez pas d'enfants. Hein.
Elle est tellement...
Un peu plus brute.
Brutale, hein?
Oui. Je ne l'ai pas.
Je ne l'ai pas. De l'aversion, peut-être. Oui, j'ai de l'aversion pour lui. Parfois, j'espère que vous n'aurez pas d'enfants. Est-ce que j'arriverai à ne voir qu'elle et pas lui dans leurs enfants? Je me demande. Et la réponse est non. Je ne pourrais simplement pas, je n'en serais pas capable. Il transparaîtra dans leur visage, leurs cheveux et leur peau, et leurs yeux, leur voix. Oh, j'ai envie de vomir, rien qu'en entendant sa voix.
Waouh. Wow.
Mais c'était bien. Mais il ne faut pas que tu ries derrière. Hein.
Ah,
j'ai envie de vomir, rien qu'en entendant sa voix. Oh, dark.
Et plus de rire, rien.
Non.
Ah, oh, j'ai envie de vomir rien qu'en entendant sa voix.
Et vous entendez là, dans la répétition ce matin, diriger les comédiennes de façon assez précise. Et pour parler de direction d'acteur, je voulais vous faire entendre la voix d'Antoine Vitez, avec qui vous avez travaillé au théâtre de Chaillot. Et là, c'est une archive qui date de 1972.
Je me suis intéressé de plus en plus à l'acteur. Et j'ai de plus en plus mis en pratique... dans mon travail de mise en scène, ce que je faisais déjà dans mon travail d'enseignement. Parce que avant de travailler au conservatoire, j'ai donné des cours à l'école de Jacques Lecoq. En 1968, très précisément au début de l'année 68, je me suis aperçu que mon travail comme metteur en scène était moins intéressant que mon travail comme pédagogue. Enfin, à mes yeux, moins intéressant. Était... plus conventionnel, y compris dans un spectacle que j'avais beaucoup aimé, qui était Les Bains de Mayakovsky, un spectacle que j'ai énormément aimé. Mais même dans ce spectacle, le traitement par moi de l'acteur, le travail avec l'acteur, était encore un travail que j'appellerais traditionnel. J'ai commencé à travailler avec les acteurs en me donnant pour tâche de faire que l'acteur soit le seul porteur des signes du spectacle. Dans mes spectacles, maintenant, il n'y a plus jamais de petits rôles. Il n'y a plus que des acteurs qui se partagent la totalité du travail du spectacle. Évidemment, le travail sur Faust et le travail sur Electre se réenrichit d'un certain nombre d'éléments comme le maquillage, comme le costume, comme des éléments scénographiques colorés. Mais je pense que ces éléments-là, au lieu d'être un contenant à l'intérieur duquel on fait travailler des acteurs, et où on les met en scène, si je puis dire, un peu indépendamment du contenant, est à partir du point de vue de l'acteur.
Stéphane Braunschweig, qu'est-ce que, encore aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous accompagne de l'apprentissage avec Antoine Vitez dans le rapport aux acteurs?
C'est toujours émouvant hein, d'entendre la voix d'Antoine Vitez. Plus 72, il est encore assez jeune. Sans doute, son apprentissage était à cet endroit de donner à l'acteur la possibilité d'être aussi un rêveur. Et à sa manière un metteur en scène, c'est-à-dire un créateur. Donc on est dans un travail qui, enfin, je dirais que mon travail est très 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 loin du travail de Vitez sur le résultat, mais pas si loin dans l'esprit, parce que effectivement, voilà, ce qu'on voit dans mes spectacles, c'est des acteurs qui eux-mêmes disent on est un peu nu, on est un peu exposé, parce que il y a pas beaucoup d'appui quand il dit les signes du spectacle, ils sont portés par les acteurs, c'est c'est un peu le cas ici aussi. Donc c'est toujours les acteurs et un rapport très très concret avec le texte qui me porte. Mais alors le travail de Vitesse était peut-être sans doute, je ne sais pas. Moi, je l'ai connu à une époque tardive finalement, hein, puisque c'était les années 87. Je ne sais pas comment il travaillait dans les années 70. J'ai pas non plus vu les spectacles des années 70. Mais en tout cas, il y a à la fois le besoin que l'acteur soit au centre et aussi une liberté. J'essaye qu'on ait une dialectique entre une liberté pour l'acteur et en même temps une très grande précision parce que je tiens à ce que la partition du texte soit là. On peut pas jouer n'importe quelle note.
Et justement, Virginie Colemain, comment dans cette exigence de la partition on trouve sa liberté ?
Précisément parce que il y a une forme qui est liée à l'écriture, à laquelle Stéphane est extrêmement attaché. Donc c'est pratiquement, on va dire, au mot près, et à les inflexions du texte, le relief du texte, est toujours régi par la pensée. Donc il y a une hyperstructure du texte, qui fait que je regarde Stéphane, hein, voilà, comme si j'avais besoin d'un assentiment, mais non, mais ça permet de ne pas s'égarer, d'être là. Stéphane parle de musique, il y a à faire un certain nombre de notes, un certain nombre de, voilà, on porte ces signes là et on est en pleine lumière. Donc c'est vrai que moi j'aime énormément ça. C'est pas du formalisme, mais on sait que en tout cas le corps peut accueillir une forme et peut-être que là il y aura un espace entre le personnage, on peut parler de personnage, et l'actrice que je suis, ou peut-être il y a des espaces d'apparition possibles, ou en tout cas je peux confier à ce moment-là dans certains plis les raisons pour lesquelles j'ai été choisie pour jouer ce rôle. C'est-à-dire que ça il y a un espace pour que ça puisse exister. Donc c'est cet équilibre-là du travail, cette crête-là, j'exécute vraiment au plus près, d'une manière laborieuse, ténue. C'est très exigeant. Je disais à ma camarade sur le banc tout à l'heure, qu'est-ce que ça demande comme effort, cette reprise aussi, comme état de présent, et en même temps, une fois que ça est là, ce ça de la forme, eh bien, tout peut s'ouvrir et se déployer. Et merci.
Nous serons de ceux qui meurent à une semaine d'intervalle. D'abord l'un de nous, de mort naturelle. Ensuite l'autre, de pur chagrin.
Oui.
C'est beau.
Il ne faut pas que ça devienne triste.
Pas que ça plombe.
Ouais. Non, oui, c'est pas
oui,
triste.
Oui, mais on ne se survivra pas. Alors.
Oui, mais c'est pas triste.
C'est pas triste. Non, c'est bien, parce qu'en plus, on ne sera pas malade. On ouvre notre sommeil.
C'est un peu plus. On est un couple comme ça, nous, hein.
Oui.
On se survivra pas.
Non, on va pas se survivre.
Hein? C'est presque un peu romanesque. Hein?
C'est vrai. Hein?
Donc, ton père me manque si fort dès qu'on n'est pas ensemble. Tu dis n'importe quoi.
Tu
dis n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça. Et la preuve, c'est que tu verras qu'on va mourir tous les deux en même temps.
Ouais, bien. Je ne suis loin de lui que depuis quelques heures, mais c'est une sorte de manque. Nous serons de ceux qui meurent à une semaine d'intervalle. D'abord l'un de nous, de mort naturelle. Ensuite l'autre, le pur chagrin.
C'est beau. Ou plutôt beau en un sens.
Oui, sûr que ça l'est. Oui.
Et voilà.
Et pour finir, je vous fais écouter la voix d'un autre metteur en scène, Giorgio Strehler, qui est arrivé à la tête de l'Odéon en 1983, et là c'est sa voix en 1994.
Mais vous, par exemple, Giorgio Strehler, vous avez été donc député européen pour représenter votre pays, l'Italie, bien que tout le monde pense que vous êtes français, en réalité, à Paris. Et le Théâtre de l'Europe que vous avez créé à l'Odéon est un Théâtre de l'Europe qui est né avant la chute du mur de Berlin, avant tout ce clivage, et vous-même qui êtes socialiste, qui avez été résistant, qui avez donc cru à certaines utopies. Aujourd'hui, est-ce que le théâtre de l'Europe, tel que vous voyez l'Europe géographique et politique se dessiner, est-ce que le théâtre n'est pas impuissant ?
Non, le théâtre, je crois que nous avons créé le théâtre de l'Europe exactement comme la démonstration que des rêves qui sur le plan politique sont tellement presque impossibles à se réaliser, peuvent être réalisés, même avec des difficultés. Le théâtre de l'Europe est né avec des énormes difficultés, mais il est né justement pour parce que démontrer que le phénomène, l'événement culturel est peut-être le ciment, je ne dis pas plus facile, mais quand même qui n'est pas contraire à l'idée d'une Europe unie. Au fond, la culture de nos pays, de l'Europe, qui sont encore divisés en des nations, etc., il est commun. C'est-à-dire l'Europe est déjà unie dans sa culture. Nous sommes tous des bâtards, si vous voulez, culturels, et pour cela, nous sommes intéressants. Donc, je pense que le théâtre, enfin, c'est un avant, peut-être, sur les structures politiques de cette Europe qui doit se faire et qui se fera un jour.
Stéphane Brunschweig, vous êtes à la direction du théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, depuis 2016, et vous allez quitter la direction avant l'été, là, 2024. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre attachement à ce théâtre, et qu'est-ce qui fait que c'était compliqué de rester ?
Voilà, on peut y consacrer une émission si vous voulez. Bon, d'abord, c'est toujours émouvant aussi d'entendre la voix de Strehler et aussi de la voix de Lucien Hatoun, qui a disparu il y a pas très longtemps. Strehler avait comme ça l'idée d'un... C'était une utopie, ce Théâtre de l'Europe, une utopie qui s'est réalisée et qui... aujourd'hui encore fonctionne. Alors quand il dit que le théâtre était en avant sur les institutions européennes, alors peut-être qu'aujourd'hui, vu l'état politique de l'Europe, on peut un petit peu douter malheureusement de ce qu'il dit, parce que c'est vrai qu'on voit une Europe aujourd'hui dans un état politique compliqué, avec l'extrême droite qui a pris le pouvoir dans beaucoup d'endroits. Mais je pense quand même que la culture, le théâtre reste un ciment entre tous nos pays. Enfin, là, moi, je reviens d'Italie, où j'ai monté une pièce de Pirandello avec des acteurs italiens. On est là à travailler sur un auteur norvégien. Enfin, il n'y a rien qui me donne plus de joie, en fait, que ces rencontres qu'on fait avec des artistes de toute l'Europe. Et il faudrait dire aujourd'hui à un niveau plus mondial, parce qu'en fait, on est trop petit, l'Europe, c'est le monde entier qu'il faut regarder. Et donc on a eu ici, pendant ma direction, des artistes associés, une Brésilienne, Christiane Jatahi, un Australien, Simon Stone, un Britannique, Alexander Zeldin, après le Brexit. C'est-à-dire que après le Brexit, nous, on a décidé d'avoir un artiste associé britannique, justement pour dire non à cette fermeture des frontières, non à ces pays qui veulent se refermer sur eux-mêmes, et non à une France qui veut se refermer sur elle-même. Donc je pense que le théâtre de l'Odéon, théâtre de l'Europe, c'est ça. Après, comme partout en Europe,
aujourd'hui, le spectacle vivant souffre. L'inflation, les hausses des coûts partout font que il y a une vraie difficulté et qu'on voit en France, mais qu'on voit aussi dans beaucoup d'autres pays, et qu'il va falloir trouver les moyens de continuer malgré tout.
Et qu'est-ce qui aurait pu faire que vous auriez eu envie de rester encore quelques années ?
Aujourd'hui, disons que notre marge artistique à l'Odéon est devenue trop faible. C'est-à-dire qu'on est pratiquement, on a pratiquement plus de marge artistique. Donc en fait, les subventions payent les coûts de fonctionnement du théâtre, qui sont nécessaires pour faire des spectacles. C'est pas pour dire qu'on ne devrait pas les payer. on en a besoin, mais il faut pour pouvoir continuer à faire du théâtre exigeant, ambitieux, où on prend des risques. Et pas seulement des spectacles où on sait qu'on va les remplir. Il faut qu'on ait une marge artistique suffisante. Et aujourd'hui, elle est devenue insuffisante. Donc c'est une manière de dire bon là, il faut quand même faut un peu se réveiller là. Parce que si l'Odéon c'est comme ça, c'est aussi comme ça dans pratiquement tous les théâtres de France. C'est-à-dire que les marges artistiques se sont réduites. Donc c'est les capacités de production et derrière en fait, ce sont les compagnies qui sont directement impactées. L'Odéon est coproducteur de la plupart des spectacles qu'on fait. Donc si on n'a plus d'argent en marge artistique, c'est les compagnies directement qui sont impactées. Donc voilà, c'était aussi une manière de tirer un peu le signal d'alarme.
Et depuis 1993, vous avez dirigé différentes institutions. Est-ce que là, vous avez d'autres envies ou...
Alors très franchement, après 29 ans de direction de lieu, Centre dramatique d'Orléans, Théâtre national de Strasbourg, Théâtre de la Colline et puis l'Odéon. Je pense que pour moi, il est temps de me consacrer à mon travail de metteur en scène et aussi de laisser une nouvelle génération prendre les rênes de ces théâtres-là. Je crois que il faut qu'une nouvelle génération arrive et assume ses responsabilités vis-à-vis des institutions.
Et est-ce qu'on peut finir en citant la dernière phrase de Jour de joie, Stéphane Braunschweig ?
C'est quoi la dernière phrase ?
La joie existe. Enfin, je laisse la dire.
Ah ben non, si je voulais que tu la dises.
La joie existe.
Merci beaucoup.
Merci.
Been building my castle of love just for two.
Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la prise de son Olivia Branger, au mixage Dofar Gaïd.
I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle way over dreams. I am fit out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you?